Chapitre 3, livre 2, le passé vivant. L'événement était si extraordinaire que Raymond en fut presque aussi effrayé que Marie-Thérèse. Il ne trouvait rien à dire devant l'épouvante de la jeune fille. Il l'avait vue, la veille au soir, jeter le fameux bracelet dans la mer du haut du balcon, et voilà qu'au réveil, l'infernal bijou brillait encore au poignet de sa fiancée. N'y avait-il pas là de quoi troubler les plus sceptiques? Il se rappelait, du coup, toutes les fables dont les deux vieillards leur avaient rebattu les oreilles, et c'est en vain qu'il essayait de repousser l'idée de la cruelle légende. Celle-ci se dressait entre eux deux dans toute sa hideur. Sur ces entrefaites, le marquis et François Gaspard, attirés par les cris et les mois des domestiques, entrèrent dans la chambre. Ils virent les jeunes gens muets et effarés. Cristobal, redoutant quelque catastrophe, demanda précipitamment des explications qu'on lui donna. Il ne s'agissait plus de le tromper. On lui dit toute la vérité. Raymond avoua que, sur l'instigation de Marie-Thérèse, il avait endossé la responsabilité de l'envoi d'un bijou dont il ignorait l'origine. Et il raconta comment la jeune fille, avant de s'aller reposer, s'était brutalement délivrée de l'anneau fatal. Marie-Thérèse tremblait de fièvre. Son père la prit dans ses bras. Cristobal était moins frappé par le récit de cette invraisemblable histoire que tourmenté par l'état dans lequel il trouvait sa fille. Il avait toujours vu celle-ci si maîtresse d'elle-même dans les circonstances les plus difficiles qu'une insurmontable angoisse l'étreignait à son tour en la sentant si peureuse devant ce mystère. Quant à François Gaspard, il répétait, enchanté au fond de la tournure que prenaient les événements destinés à fournir l'un des plus curieux chapitres de son voyage transatlantique, « Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible !» C'était si bien possible que tout s'expliqua de la façon la plus simple et même la plus plate. La petite Couchard entra du marché. Elle revenait d'Ancône et se pressait dans l'intention d'aider sa maîtresse dans sa toilette. Elle trouva la maison sans dessus-dessous et en haut, dans la chambre de Marie-Thérèse, tout le monde réuni autour du fameux bracelet Soleil d'Or. Alors elle raconta, avec une naïveté enfantine, qu'en partant la première heure pour le marché par le chemin de Grève, selon sa coutume, elle avait vu quelque chose briller sur le sable. Elle se baissa et ramassa le lourd bracelet Soleil d'Or, déjà à moitié enfoui. Elle reconnut le bijou pour l'avoir vu la veille au bras de sa maîtresse, et ne douta point que celle-ci l'eût laissé glisser sans s'en apercevoir, du haut du balcon. Petite Conchat, qui aimait sa maîtresse, avait couru avec joie à la chambre de Marie-Thérèse. Celle-ci dormait encore. Elle ne la réveilla point, mais lui remit une anneau au poignet avec un soin touchant. Et c'était là toute l'histoire, qui avait failli faire basculer les esprits les mieux équilibrés. Un éclat de rire général accueillit la fin du récit de Conchat, qui se sauva toute rougissante et un peu vexée. « Mais nous devenons tous fous !» s'écria le marquis. « Ce bracelet nous rendra malades, » fit Raymond. « Il faut à toute force nous en débarrasser. »« Mais gardez-vous-en bien, il n'aurait qu'à revenir encore, et cette fois je ne répondrai plus de ma raison. » dit Marie-Thérèse qui riait maintenant comme les autres, et même plus nerveusement que les autres. « Savez-vous ce qu'il faut faire ? » ajouta-t-elle. « Il faut nous promener, changer d'air, aller faire un tour dans la montagne, montrer la Sierra à Raymond et à M. Zou. Nous rentrons aujourd'hui à Lima. Ne rien dire à ma tante Agnès ni à la vieille Irène qui nous montrait encore l'imagination. » Avec Raymond, j'irai faire un tour à Callao où vous nous rejoindrez. Là, je prendrai les dispositions nécessaires et donnerai mes ordres pour que les affaires ne souffrent point de mon absence. Et le soir, nous prenons tous le bateau. Le bateau pour aller dans la Sierra? S'exclama Cristobal. Le bateau pour Pacasmayo, cher père. Mais Pacasmayo, mais nous en sortons, gémit l'oncle. Nous sommes restés au moins 4 heures à cette escale en face de la sept côtes qui n'a rien de bien attrayant. Rien de bien attrayant, illustre monsieur Ozou, reprit Marie-Thérèse. Vous dites rien de bien attrayant. Mais savez-vous où l'on va quand on est tapé à ce caillot? Non, vous ne le savez pas. Eh bien, je vais vous le dire. On va à Caramarca. François Gaspard porta la main à son cœur. Caramarca, l'ancienne Caxamarxa des Incas. Vous l'avez dit, monsieur l'académicien. Oh, le rêve de ma vie. Eh bien, nous allons le réaliser, mon cher maître. Et du même coup, mon cher papa, nous nous informerons du nom du mystérieux expéditeur de ce trop mystérieux bijou, puisque le bracelet Soleil d'Or nous est venu de Caramarca même. Tu as raison, ma fille, approuva Cristobal. Il faut décidément savoir à quoi s'en tenir sur cette sotte affaire. Et si c'est une plaisanterie d'un de mes amoureux évincés, dit Marie-Thérèse, qui jouait maintenant avec le bracelet, je vous prie de croire qu'il me le paiera son prix. On s'amusera un peu à Lima. Sur quoi elle les chassa tous de sa chambre et appela pour sa toilette la petite Concha, qui accourut tout juste pour recevoir une maîtresse gifle, destinée à lui apprendre à réveiller sa maîtresse le jour où elle retrouverait un bracelet d'osaire d'or sur le sable du rivage. L'enfant, surprise de ce traitement exceptionnel, ne retint pas ses larmes. Alors la jeune fille la gava de bonbons. Marie-Thérèse ne se reconnaissait plus. Elle eût voulu être calme, et chacun de ses gestes trahissait sa nervosité. Surtout, elle ne se pardonnait pas d'avoir eu peur. On peut dire en principe qu'au Pérou, il n'y a pas de route et que depuis la construction par les Incas de la voie pavée qui traversait tout le pays des confins de la Bolivie à la capitale de l'Équateur, et devant laquelle les plus grands travaux de l'époque gallo-romaine représentent une somme de travail bien insignifiante, les routes actuelles sont en somme que de véritables sentiers muletiers, d'où la nécessité, quand on veut pénétrer dans l'intérieur du pays, de prendre la mer pour aller chercher sur la Costa l'une des lignes de chemin de fer qui, traversant les Andes, conduisent les voyageurs au cœur de la Sierra. Car le Pérou, physiquement, se divise en trois bandes parallèles à la mer. La Costa, qui s'élève graduellement depuis le bord de l'océan jusqu'à une hauteur de 1 500 à 2 000 mètres sur le versant occidental des Andes. La Sierra, montagne et plateau, comprenant la région intra-andine dont l'altitude varie entre 2 000 et 4 000 mètres. Enfin, la Montana, la région des forêts, qui s'abaisse en longue pente à l'est de la cordillère, du côté de l'Amazone, avec une altitude décroissante de 2 000 à 500 mètres. Entre ces trois zones, tout diffère, aspect, climat et production. La Costa est riche. La Sierra offre des vallées riantes et relativement chaudes. La Montana présente l'aspect d'un véritable océan de verdure. Les plus curieux de ce curieux pays est la multiplicité de ses aspects dans un espace relativement restreint. Comme pour pénétrer dans la Sierra, il faut gravir l'un des plus hautes montagnes du monde, et cela dans des régions équatoriales, il arrive que l'on passe quelques heures dans des contrées où les arbres de toutes les latitudes, les plantes de tous les climats se trouvent réunis et cultivés. Le noyer croît à côté du palmier, la betterave tout près de la canne à sucre. Ici, un verger rempli de pommiers est superbe. Plus loin, un groupe de bananiers qui étalent majestueusement leurs larges feuilles. Dans cette étonnante contrée, on trouve des propriétaires qui peuvent faire servir à leurs hôtes, dans le même repas, de la glace ramassée quelques heures auparavant sur leurs terres, dans la région des neiges, et un limon, doux fruit essentiellement tropical, que l'on vient de cueillir dans ce même jardin. Ah, que de notes à prendre pour François Gaspard! Que de spectacles nouveaux, que d'enchantements, et quelles belles pages en perspective! Raymond et le marquis, et Marie-Thérèse elle-même, riaient de son zèle d'écolier qui ne veut rien laisser perdre. L'ombre du conquérant. Ils faillirent le faire devenir fou une fois qu'il lui avait caché son stylo. Enfin, l'on s'amusait. Et il paraissait bien que l'on avait tout à fait oublié le bracelet soleil d'or, laissé du reste à la garde de la tante Agnès et de la duègne Irène, lesquelles l'avaient aussitôt, après le départ des voyageurs, porté à San Domingo sur l'autel de la Vierge, préservatrice des maléfices et conjuratrice de sortilèges. L'arrivée à Pacas Mayo avait particulièrement excité la joie de l'oncle Ozou. Le débarquement s'opéra sur un énorme radeau qui, obéissant au flot de l'éternelle houle, montait à mi-hauteur du pont du paquebot pour redescendre quelques mètres au-dessous. Pour arriver sur le radeau, il fallait d'abord monter dans un tonneau que soulevait un palan. Ensuite, le tonneau redescendu rencontrait le radeau et il ne s'agissait plus que de bien prendre son temps pour sauter du tonneau sur le radeau. Marie-Thérèse montra l'exemple et réussit gracieusement cette gymnastique compliquée. Le marquis, qui avait l'habitude, sembla voltiger dans les airs. Raymond sut mesurer son effort de telle sorte qu'il put descendre de son tonneau les mains dans les poches. Quant à François Gaspard, son débarquement fut si mal combiné que le tonneau rencontrant brutalement le radeau dans la seconde que le professeur rêvait à autre chose, le malheureux membre de l'Institut, section des inscriptions et belles-lettres, en jaillit comme d'une boîte à ressort. Inutile de dire qu'en arrivant au rivage, le bon oncle, qui était encore dans l'exaltation littéraire de cet exceptionnel débarquement et qui ne s'était nullement préparé au choc inévitable, roula du radeau sur le sable où la dernière vague de la barre vint le tremper comme un barbet. Il dut se dévêtir à moitié et se sécher au soleil avant de continuer un voyage commencé sous d'aussi heureux auspices. Ce ne fut que le lendemain matin que les voyageurs quittèrent Pacas Mayo sans qu'il leur fût survenu rien d'autre qui pût retenir leur attention. Cependant, Raymond dut remarquer la coïncidence qui réunissait à leur petite troupe un certain gentleman de mine un peu cuivrée qui, s'il n'avait été vêtu d'un complet à la dernière mode, eût pu facilement passer pour un de ces types de la race indienne de Trujillo, dont Huascar était certainement le plus superbe représentant. Cependant, le voyageur portait le costume avec aisance et en cours de route s'était montré fort civilisé, notamment à l'égard de Marie-Thérèse, à laquelle il avait eu l'occasion de rendre de ses services qui sont dus en voyage à une femme, même quand vous ne lui avez pas été présenté. L'homme s'était embarqué en même temps qu'eux à Callao, avait débarqué sur le même radeau, avait couché dans la même auberge à Pacas Mayo, et le lendemain prenait le même train pour Caramanca. Le spectacle de la traversée de la première cordillère des Andes était si captivant que nul ne s'aperçut tout d'abord que l'homme s'était glissé jusque dans le compartiment du marquis et de ses compagnons. Mais il sut se rappeler à l'attention de ceux-ci et d'une façon si inattendue que les voyageurs, sans trop se rendre compte de ce qui se passait ou de ce qu'ils ressentaient, en conçurent immédiatement une gêne insupportable. On avait jusqu'alors admiré le paysage et les différentes transformations d'une nature multiple. On venait d'entrer dans les défilés les plus sauvages qui se peuvent imaginer, quand l'inconnu prononça d'une voix grave « Vous voyez ce cirque, signores ? C'est là que Pizarro a envoyé ses premiers messagers au dernier roi des Incas. » Tous avaient tourné la tête. L'inconnu ne semblait voir personne. Debout sur la plateforme, les bras croisés, ses yeux ne quittaient point ces rochers au pied desquels le plus grand aventurier de la terre s'était arrêté avant de conquérir un empire. « Mon aïeul en était !» s'écria le marquis. L'inconnu ne regarda même pas son interlocuteur, mais il prononça d'une voix si bizarre cette phrase. « nous le savons !» que Cristobal et les autres se demandèrent à quel original ils avaient affaire. Sa majestueuse immobilité ne laissa point que de les inquiéter. Enfin, l'autre reprit, après un silence, « Oui, nous n'avons pas oublié qu'il y avait un Cristobal de la Torre avec les Pizarre. Monsieur le marquis, nous connaissons votre histoire. Lorsque Pizarre est descendu de la colonie espagnole de Panama, dans la prescience qu'il trouverait au-delà de l'équateur un empire fabuleux, plus riche que celui que Cortés venait de donner à Charles Quint, lorsque Pizarre, après 1000 dangers et dénué de toute ressource, vit sur le point d'être abandonné de tous, il tira son épée et traça une ligne sur le sable de l'est à l'ouest. Se tournant ensuite vers le sud, « Amis et camarades, dit-il, de ce côté sont les fatigues, la faim, la nudité, les pluies torrentielles, l'abandon et la mort. De l'autre, le bien-être, la médiocrité. Mais aussi au sud, c'est le Pérou et ses richesses, c'est la gloire, c'est l'immortalité. Choisissez donc chacun ce qui convient le mieux, un brave Castillan. Pour moi, je vais au sud. » Disant ces mots, il enjamba par-dessus la ligne. Il fut suivi du brave pilote Ruiz, puis par Pedro de Candia, cavalier né, comme le dit son nom, dans l'une des îles de la Grèce. 11 autres traversèrent successivement la ligne, montrant ainsi leur volonté de partager la bonne et la mauvaise fortune de leur chef. Parmi ces 11-là, il y eut un Juan Cristobal de la Torre. « Nous le savons, seigneur, nous le savons !»« Mais qui donc êtes-vous, monsieur ?» demanda brutalement le marquis, que les airs de l'inconnu, bien que celui-ci ne se partît point de la plus extrême politesse, commençaient à exaspérer. L'autre sembla n'avoir pas entendu. Il continua, comme s'il rendait hommage au haut fait de l'ancêtre. « N'est-ce pas, monsieur, n'est-ce pas, señorita ?» qu'il y a quelque chose de frappant pour l'imagination dans le spectacle de ce petit nombre de braves, se consacrant ainsi à une entreprise audacieuse qui semblait autant au-dessus de leur force qu'aucune de celles que racontent les annales de la chevalerie errante. Une poignée d'hommes, messieurs, sans nourriture, sans habits, presque sans armes, était laissée sur un roc solitaire avec le dessein avoué d'accomplir une croisade contre l'un des plus puissants empires qui ait jamais existé. Et ils n'hésitaient point, cependant, pour cela, à mettre leur vie en enjeu. Et parmi ces hommes, il y avait un Cristobal de la Torre. Monsieur le marquis, permettez-moi de vous faire toutes mes félicitations et aussi de vous présenter votre serviteur, Wagner Capatruntu, premier commis à la banque franco-belge de Lima. Nous pouvons voyager de compagnie. Monsieur le marquis, car nous sommes de nobles races tous les deux. Moi, je suis de race royale. Huagna Capac, roi Inca, qui n'avait que 16 ans lorsqu'il succéda à son père, eut pour femme légitime Pilan Huaco, dont il n'eut pas d'enfant. Il épousa en secondes noces 2 autres femmes légitimes. Ravabello et sa cousine Mama Runta, et je suis un descendant de ce Wagna Kapak et de cette Mama Ruotu. Votre administration vous a donc donné un congé, demanda avec une certaine insolence le marquis. Un sombre éclair passa dans les yeux de Wagna Kapak Runtu. Oui, dit-il d'une voix sourde. Mon administration m'a donné congé pour la fête de l'Interaimi. Raymond ne put s'empêcher de tressaillir en réentendant ce mot qui avait été si longtemps prononcé à l'occasion du bracelet soleil d'or. Il regarda Marie-Thérèse, qui était plutôt inquiète de la tournure que prenait la conversation entre son père et ce singulier voyageur. Elle se rappelait parfaitement maintenant avoir aperçu l'individu dans les bureaux de la banque franco-belge, et elle avait eu affaire à lui plusieurs fois à Callao, dans son établissement même, pour des règlements de compte à propos du guano phosphaté à destination d'Anvers. Il lui avait paru alors le plus insignifiant des commis de banque, et il était passé près d'elle en laissant une image bien effacée dans sa mémoire. Ce n'était qu'à cette heure où ce pseudo-péruvien s'avouait orgueilleusement dans son complet veston comme un pur indien quichua qu'elle découvrait en lui les marques de la race de Trujillo et l'allure générale qui en faisait un frère de Huascar. Elle savait par expérience combien cette sorte d'indigène est susceptible, et elle craignait que l'imprudent marquis ne déchaînât une tempête, peut-être sans s'en douter. Elle intervint aimablement. « Oh, la fête de l'Interaimi, mais c'est votre grande fête à vous, nobles indiens. Est-ce qu'elle sera particulièrement célébrée à Cajamarca ?» demanda-t-elle. « Cette année, fit l'autre, elle sera particulièrement célébrée dans les Andes entières. » « Et vous n'y admettez point de profane ? Oh, je serais si curieuse d'assister à cette fête dont on parle tant. On en dit tant de choses, tant de choses. »« Des niaiseries, señorita, des niaiseries, croyez-le !» reprit l'autre, redevenu tout à fait petit garçon devant la noble péruvienne. Et, souriant d'un bizarre sourire qui découvrit des dents éclatantes, une mâchoire qui parut féroce à Raymond, il ajouta en zézayant légèrement d'une voix molle et lasse « Je sais, on parle de sacrifice, mais cela des contes de bonne femme. À l'Interaimi, des sacrifices humains, mais regardez-moi avec mon complet veston de chez Arat et si j'ai l'air de me rendre à une boucherie sacrée. Non, quelques rites qui nous rappellent notre splendeur passée, quelques invocations au dieu du jour et un pieux souvenir à notre dernier roi, à ce malheureux Atahualpa, notre martyr à tous. Et c'est tout, croyez-le bien. Et je reviendrai bien tranquillement vous présenter les traites de la maison franco-belge à la Calle de Lima à la fin du mois prochain, signorita. » Raymond se trouva tout à fait rassuré par les dernières paroles de l'homme. Un sourire de Marie-Thérèse et une grimace de François Gaspard, de nouveau désorienté par le prosaïsme de ce descendant des Incas, commis de banque, classèrent les dernières vilaines pensées surgies à nouveau dans la cervelle des voyageurs au nom de l'Interaimi. Raymond regarda le paysage qui devenait de plus en plus sombre. Le train glissait au fond d'un gouffre entre deux parois d'une hauteur vertigineuse. Tout là-haut, dans une bande de ciel éclatante, des condors aux ailes immenses éployées décrivaient des cercles lourds. Et c'est par des chemins pareils que Pizarro est venu à la conquête des Incas, s'exclama Raymond. « Mais comment, avec sa petite troupe, n'a-t-il pas été écrasé ?»« Mon cher monsieur, ricana lugubrement le commis de banque, il n'a pas été écrasé parce qu'il venait en ami. Mais tout de même, on ne s'empare pas comme cela d'un empire. Quand ils ont marché sur Caramarca, combien Pizarre et ses compagnons étaient-ils? Bon, ils avaient reçu du renfort, fit le marquis en frisant sa moustache. Ils étaient 177. Moins 9, rectifia le complet veston. Ce qui fait 177 moins 9 égale 168, si je ne me trompe, inscrivit François Gaspard sur son éternel carnet. Pourquoi moins 9 demanda Marie-Thérèse. Ben, parce que mademoiselle, répliqua le descendant de Malafuntu, qui semblait connaître l'histoire de la conquête de la Nouvelle-Espagne mieux que les descendants des Espagnols eux-mêmes, parce que Pizarre refit pour ses nouveaux compagnons ce qu'il avait déjà fait pour les anciens. Il ne leur dissimula pas la difficulté de la tâche et leur donna une fois encore à choisir. Pizarre s'était arrêté au milieu des montagnes pour donner du repos à sa troupe et en faire une inspection plus complète. « Oh, vous avez lieu d'être fiers, messieurs !» Leur nombre était bien alors en tout de 177 hommes, dont 67 cavaliers. Il n'avait dans toute sa compagnie que 3 arquebusiers et quelques arbalétriers, n'excédant pas ensemble le nombre de 20. Et c'est dans cet équipage que Pizarre se trouvait au devant d'une première armée de 50 000 hommes et contre un peuple de plus de 20 000 millions d'habitants. Car le Pérou, sous les Incas, comprenait à la fois ce que nous appelons maintenant l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et le Chili. C'est alors, messieurs, qu'il trouva que ses soldats étaient encore trop nombreux. Il avait remarqué avec inquiétude qu'il s'en trouvait quelques-uns dont le visage était assombri et qui étaient loin de marcher avec leur entrain ordinaire. Il sentait que, si cette disposition devenait contagieuse, ce serait la ruine de l'entreprise, et il jugea qu'il valait mieux retrancher d'une fois la partie gangrenée que d'attendre que le mal eût gagné la masse entière. Ayant ramassé ses hommes, il leur dit que leurs affaires étaient arrivées à une crise qui exigeait tout leur courage. Nul ne pouvait songer à poursuivre l'expédition s'il avait le moindre doute du succès. Si quelques-uns se repentaient d'y avoir pris part, il n'était pas trop tard pour s'en retirer. Cela n'avait qu'à retourner au bord de l'océan, à San Miguel, où il avait déjà laissé quelques compagnons, avec ceux qui voudraient partager les chances de sa fortune. Qu'ils fussent peu ou nombreux, ou beaucoup, ils poursuivraient l'aventure jusqu'au bout. Alors il s'en retira 9. 4 appartenaient à l'infanterie et 5 à la cavalerie. Les autres accablèrent leur général. Obéissant à la voix de celui qui servait Pizarre comme un second frère, s'écria le marquis, à la voix de mon aïeul Cristobal de la Torre. Nous le savons, répéta encore avec son inquiétante ironie le singulier commis de la banque franco-belge. « Et pourrions-nous savoir pourquoi vous nous racontez toutes ces belles choses ?» interrogea le marquis sur un ton d'une grande hauteur. « Pour vous prouver, seigneur, que les vaincus savent l'histoire de leur pays mieux encore que les vainqueurs, » répliqua l'autre du tac au tac, et avec une emphase un peu ridicule pour un homme qui portait si bien le veston de la maison Zarate et compagnie. La meilleure maison de confection du Paseo de Amancres. Mon Dieu, que c'est beau! S'écria soudain Marie-Thérèse, qui enrayait encore une discussion en rejetant l'attention des voyageurs sur le paysage.
Un colloque dans la nuit noire. À ce moment, le train traversait un pont d'où l'on pouvait apercevoir un panorama d'une splendeur sans égale. En face s'élevait la chaîne prodigieuse des Andes, roc entassé sur roc, et plus bas, par une fissure de la montagne, on avait une échappée sur des forêts toujours vertes, entremêlées çà et là de terrasses cultivées en jardin, chacune avec sa chaumière rustique suspendue à ses flancs hérissés, et pour peu que le regard s'élevât, on apercevait la crête neigeuse des monts étincelants dans le soleil, spectacle présentant à la fois un chaos si sauvage de magnificence et de beauté qu'aucun autre paysage de montagne n'en peut offrir un semblable. Mais cela était plus terrible encore que beau, et les abîmes que le train franchissait à chaque instant donnaient le frisson à Marie-Thérèse, qui, appuyée au bras de Raymond et songeant à l'audace folle des conquistadors, se prit à murmurer. Et voilà cependant ce rempart qui n'a pu arrêter les soldats de Pizarro. Malheureusement, ces paroles furent entendues de l'étranger, qui répondit cette fois d'une voix nettement hostile. « N'est-ce pas que nous aurions pu les écraser ?» Sur quoi le marquis fut tout de suite par un petit bond vers le descendant qui choisit les rois Inca. Il se haussa sur la pointe des pieds et lui détacha une petite tape méprisante sur l'épaule. « Et pourquoi donc ne l'avez-vous pas fait, seigneur ?»« Parce que nous ne trahissons pas. » Raymond n'eut que le temps de saisir à la taille et d'emprisonner de ses bras puissants le tumultueux marquis, qui était déjà parti en bolide contre l'insolent indien. Dans cette position, Cristobal se débattait comme un petit diable et était parfaitement ridicule. Quelques paroles de Marie-Thérèse réussirent cependant à le calmer presque instantanément. La jeune fille, qui connaissait l'orgueil de son père, lui fit comprendre à mi-voix combien il s'abaissait, lui, marquis de la Torre, en discutant avec un petit commis de banque franco-belge. « Oh, tu as raison !» déclara Cristobal en reprenant pied et en jetant à son interlocuteur, qui n'avait pas bougé, un regard d'une insolence telle que Wagnia Capac Rantou en pâlit. L'Indien n'avait pas été non plus sans comprendre le sens de l'observation de Marie-Thérèse, et les choses allaient peut-être encore se gâter quand le train s'arrêta. La ligne, qui était alors en construction, n'allait pas plus loin. Il restait une quarantaine de kilomètres pour se rendre à Caramaja, et les derniers kilomètres devaient être faits à dos de mule, car on le trouvait alors en pleine montagne, en plein défilé. Les voyageurs, du reste, goûtèrent le pittoresque du campement où ils allaient passer la nuit. On avait accroché au flanc des monts quelques baraques en planches dans lesquelles logeaient pêle-mêle les ouvriers. La cantine s'accompagnait d'une douzaine de tentes assez confortables où s'installaient les voyageurs qui ne devaient partir pour Caramarca que le lendemain matin. Une trentaine de mules paissaient sur le sol, l'herbe rare en liberté. Les éternels gallinazos continuaient de décrire leur large cercle dans le ciel empourpré. Le dîner, servi au bord d'un abîme d'où montait la musique tumultueuse d'un torrent, fut très gai. Le commis de banque avait disparu. Marie-Thérèse le retrouva soudain auprès de sa tante, le soir venu. Il la saluait bien humblement, lui demandait pardon de l'incident du train. « Il ne croyait pas, disait-il, qu'en remontant à une aussi vieille histoire, il serait désagréable à monsieur le marquis, qu'il respectait infiniment. Enfin, il savait que le marquis était au mieux avec le directeur de la banque franco-belge, et il espérait que cette affaire n'aurait pas de suite. » La jeune fille le rassura en dissimulant une forte envie de rire. Le farouche descendant des Incas avait peur de perdre sa place. Quand il se fut éloigné, elle alla tout raconter à son père et à Raymond qui s'en amusèrent beaucoup. Puis chacun s'en fut se coucher, excepté cependant l'oncle Zou, qui passa une grande partie de la nuit à mettre ses notes en ordre et à écrire une longue lettre à son grand journal du soir, lettre dans laquelle il annonçait qu'il refaisait toute la conquête du Pérou avec Pizarre et avec un Indien descendant des rois Incas. Il dépeignait cet Indien, sous les traits et sous l'aspect le plus glorieusement sauvage, lui mettait des plumes dans les cheveux, et oubliait naturellement de dire qu'il s'habillait dans une maison de confection de Lima. Marie-Thérèse eut, comme toutes les nuits depuis l'apparition sur son balcon du crâne pain de sucre, de la casquette crâne et du crâne petite valise, un sommeil assez agité. Elle se tournait et retournait sur son lit de camp sans parvenir à trouver le repos dont elle avait grand besoin. Soudain, elle se dressa sur sa couche, l'oreille aux aguets. Il avait semblé entendre dehors, tout près de sa tente, une voix dont elle connaissait bien l'accent. Elle se glissa, sans faire de bruit, jusqu'à la porte de toile de sa chambre improvisée, et, la soulevant d'un doigt, elle put voir dehors ce qui se passait. Deux ombres s'éloignaient sous la lune. Elle reconnut tout de suite le commis de la banque franco-belge, mais elle hésita devant l'autre dont elle n'apercevait pas le visage. Enfin, les deux ombres s'étant arrêtées, se retournèrent du côté de la tente qu'ils montrèrent de la main, et Marie-Thérèse, cette fois, ne put retenir un nom. « Ouascar !» Mais qu'est-ce que Ouascar faisait là? Et pourquoi ce colloque dans la nuit en face de sa tente avec ce singulier Wanya Capac Runtu? Pourquoi désignait-il l'endroit où elle reposait? Mais qu'est-ce que tout cela signifiait? Les deux ombres avaient repris leur marche. La paix de la nuit fut alors troublée du hennissement d'un cheval. Et la jeune fille aperçut le cheval qui attachait un piquet, piaffait d'impatience. Ouascar était déjà en selle, pendant que le commis de banque détachait la bête tout en continuant la mystérieuse conversation et en désignant encore de temps à autre la tente de Marie-Thérèse. Enfin, le cavalier glissa derrière les tentes et le commis disparut en même temps que lui. Tout redevint calme et le petit plateau où les voyageurs campaient resta désert. Ouascar se montre, cruelle hantise. Marie-Thérèse ne put refermer les yeux de la nuit. Cette inattendue réapparition d'Ouascar lui donnait à réfléchir et n'était point faite pour calmer l'inquiétude qui était maintenant latente tout au fond d'elle-même, bien qu'elle s'en défendît et qu'elle se l'avouât à peine, ayant honte de ce qu'elle appelait sa pusillanimité. Avait-elle quelque chose à craindre de Ouascar? Elle ne pouvait l'admettre. Elle se rendait parfaitement compte que l'Indien l'aimait, mais comme un chien fidèle, et elle eût juré qu'elle pouvait compter sur son dévouement dans le cas où elle eût couru quelque danger. Et cependant quoi? De quel danger s'agissait-il donc? Elle avait envie de se battre. Elle se trouvait plus sotte que les vieilles dames là-bas qui vivaient au fond de leurs vieux souvenirs, au milieu de leurs vieux meubles avec leurs stupides histoires. Elle résolut de ne point parler de ce qu'elle avait vu cette nuit-là, ni à Raymond ni à son père. Elle ne voulait pas passer pour une petite fille qui a peur la nuit des ombres qui se promènent sous la lune. Mais elle se dit qu'à la prochaine occasion, elle questionnerait très catégoriquement Wagna Capac Runtu. Cette occasion se présenta dès le début de l'étape du lendemain. Tous les voyageurs s'étaient mis en route sur leurs mules. Le petit groupe de Marie-Thérèse, du marquis, de Raymond et de Ozou était en tête. François Gaspard, qui s'était mis tout d'abord allègrement en selle, voulut en descendre quand le chemin lui parut trop dangereux. Sur sa mule, il lui semblait qu'il était 10 fois plus haut au-dessus des précipices que s'il avait été à pied, et par instant il eût voulu, pour plus de sûreté, se hissait sur le chemin à quatre pattes. Sa bête, accrochée au flanc du roc, lui donnait des terreurs folles. Il craignait qu'elle ne glissât à chaque instant. N'y pouvant plus tenir, il s'arrêta, et comme dans l'instant on ne pouvait passer deux de front, il arrêta du coup derrière lui toute la caravane. Le pire est qu'en voulant descendre, il avait des gestes maladroits qui tendaient à faire perdre l'équilibre à sa monture. On lui cria de rester tranquille. Il répondit qu'il voulait bien ne pas descendre, mais qu'il ne ferait plus un pas. La position était des plus ridicules. C'est sur ces entrefaites que le commis de banque, descendant de sa propre mule et se glissant entre la paroi et les bêtes, parvint jusqu'à la mule de François Gaspard dont il prit la bride et à laquelle il fit, avec une grande adresse, franchir le passage difficile, malgré les gesticulations de l'oncle. Raymond, le marquis et Marie-Thérèse durent le remercier. Marie-Thérèse se trouva mule à mule près de lui. « Bonjour, Seigneur Wainea Capracuntu, » dit-elle avec un sourire engageant. « Seigneurita, le sont tous ces noms illustres qui sont morts avec mes ancêtres. Je n'ai plus droit aujourd'hui qu'à celui sous lequel on me connaît dans la banque. Je m'appelle Oviedo, comme tout le monde. »« Ah, je me rappelle maintenant, oui, oui, je vous ai aperçu au fin de mois. Oviedo de la banque franco-belge. » « Eh bien, Seigneur Oviedo, pourriez-vous me dire ce que vous faisiez cette nuit tout près de ma tante avec mon ancien employé Ouascar ?» Oviedo Agnea Capacruntu ne broncha pas, mais sa mule eut un léger mouvement. Il la retint d'une main ferme. « Ah oui, vous avez vu Ouascar, il est arrivé en pleine nuit à l'étape et m'a fait réveiller. Oh, c'est un vieil ami. Il savait que je me rendais à Caramarca et comme il s'y rendait lui-même, il n'a pas voulu passer sans me serrer la main. Nous nous sommes en effet tenus un moment auprès de votre tante, oui, oui. Mais quand il a su que vous étiez là, c'est moi qui le lui ai dit. » Il m'a recommandé de veiller sur vous, et il est reparti aussitôt. Mais en quoi ai-je besoin que quelqu'un veille sur moi ? Demanda Marie-Thérèse. Est-ce que je cours quelque danger ? Aucun ! Mais vous courez le danger auquel chacun est exposé ici. Ces défilés sont dangereux, une mule peut faire un faux pas. Ça, c'est vu. Une selle mal attachée peut tourner, et c'est la mort. Voilà ce que voulait dire Ouascar, et voilà pourquoi j'ai choisi moi-même votre mule ce matin, et pourquoi j'ai sanglé moi-même votre selle. « Merci, monsieur, » dit-elle d'un ton assez sec, car elle était très agacée. François Gaspard la rejoignit alors. Il avait retrouvé son sang-froid, car la route était maintenant plus large. Il parla avec désinvolture de ce chemin de sauvage et se défendit d'avoir eu peur. « Tout de même, ajouta-t-il, je me demande comment Pizarre a pu passer par ici avec sa petite armée. » Marie-Thérèse jeta à l'académicien un coup d'œil qui lui certainement fait basculer dans l'abîme si l'autre l'avait surpris. Mais François Gaspard commettait les gaffes avec sérénité et remettait la conversation sur le terrain qui l'intéressait, tant brûlant fut-il. « Oui, c'est bien incroyable, » répliqua le commis. « Moi, voyez-vous, cela m'a amusé d'étudier la question. Parfois, le chemin était si raide que, dans plusieurs endroits, les cavaliers furent obligés de mettre pied à terre et de conduire leurs chevaux par la bride en grimpant comme ils pouvaient. Un faux pas pouvait les précipiter à des milliers de pieds. Les défilés de la Sierra, praticables à l'Indien, demi-nus, était formidable pour l'homme d'armes chargé de sa panoplie. Tous ces passages, évidemment, présentaient des points de défense, et les Espagnols lorsqu'ils entraient dans ces défilés entourés de roches, devaient chercher d'un regard inquiet l'ennemi. « Mais que faisait donc l'ennemi pendant ce temps-là ? » interrogea Raymond, qui s'approchait à son tour. « Oh, l'ennemi ne faisait rien, seigneur. L'ennemi, derrière la montagne, attendait la visite des Espagnols. Il y avait un échange de messages d'où il résultait que l'on devait se rencontrer en amis. Pardon, monsieur le commis de la banque franco-belge, fit la voix du marquis. Voulez-vous me permettre une petite observation, une question ? Croyez-vous que si votre roi Atahualpa avait pu imaginer une seconde que ses 50 000 hommes ne pourraient la défendre contre 150 Espagnols, il aurait attendu sous sa tente Pizarre et ses compagnons ? Il n'a point marché contre eux parce qu'il méprisait leur faiblesse, tout simplement. Et il a eu tort, monsieur Runtu. L'Indien s'inclina humblement sur sa selle. Oui, monsieur le marquis, il a eu tort. Et se relevant, cependant que son doigt montrait un point extrême des roches tout là-haut, dans le lointain azur. Il aurait dû apparaître dans ses défilés comme ce cavalier au-dessus de nos têtes, et ne serait rien resté de la folle entreprise. Et le soleil, notre Dieu, régnerait encore sur l'empire des Incas. Ce disant, le commis de la banque franco-belge semblait avoir grandi sur sa selle. Son geste romantique embrassait le colossal massif des Andes, qui semblait être là pour servir de piédestal à l'Indien de là-haut, qui, sur son cheval, ne bougeait pas plus qu'une statue de bronze. Il regardait passer la caravane au-dessous de lui. « Huascar !» s'écria Marie-Thérèse. Et tous, en effet, reconnurent Huascar. Et jusqu'au moment où ils sortirent de la première chaîne des Andes, tantôt devant, tantôt derrière, toujours immobiles pendant qu'ils passaient, toujours au-dessus d'eux comme une protection ou comme une menace, ils devaient l'apercevoir. Sa haute silhouette équestre ne cessait de les dominer et de les hanter. Les voyageurs passèrent encore une nuit sous la tente et le lendemain ils arrivèrent en vue de la vallée de Cajamarca qu'ils découvrirent émaillée de toutes les beautés de la nature. Elle se déroulait comme un tapis de verdure riche et varié, offrant un contraste frappant avec la sombre forme des Andes qui l'entouraient. Telle apparut cette vallée heureuse aux yeux éblouis des soldats de Pizarre. Elle était, au temps du conquistador, habitée par une population supérieure à toutes celles que les Espagnols avaient pu rencontrer de l'autre côté des montagnes, comme le témoignait le goût de leurs vêtements, la propreté et le confort que présentaient visiblement les personnes et les habitations. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, la plaine offrait l'apparence d'une culture soignée et prospère. À travers les prairies coulait une large rivière qui facilitait une irrigation abondante au moyen des canaux et des aqueducs souterrains. Le pays, entrecoupé de haies verdoyantes, était bigarré de cultures diverses, car le sol était riche et le climat, s'il était moins puissant que celui des régions brûlantes de la côte, favorisait davantage les productions vigoureuses des latitudes tempérées. Au-dessous des aventuriers s'étendait la petite ville de Cajamarca, avec ses maisons blanches brillant au soleil, semblable à une pierre précieuse étincelante sur la sombre lisière de la Sierra. Environ une lieue plus loin, dans la vallée, Pizarre avait pu voir des colonnes de vapeur se levant vers le ciel et indiquant la place des fameux bains chauds très fréquentés par les princes péruviens. Là aussi s'était offert un spectacle moins agréable aux yeux des soldats de Pizarre. Ils aperçurent, sur la pente des hauteurs, un nuage blanc de pavillons qui couvrait la terre, aussi pressé que des flocons de neige dans un espace qui paraissait de plusieurs milles. Nous fûmes tous remplis d'étonnement, s'écria des conquérants, de voir les Indiens occupant une si fière position, un si grand nombre de tentes mieux disposées qu'ils n'en s'en étaient jamais vues aux Indes. Ce spectacle jeta une sorte de confusion et même de crainte dans les cœurs les plus fermés. Mais il était trop tard pour revenir sur ses pas ou pour laisser paraître le moindre signe de faiblesse. Ainsi donc, faisant aussi bonne contenance que possible, après avoir froidement reconnu le terrain, nous nous préparâmes à entrer dans Kramarmarsa. Tout brûlant de ces souvenirs merveilleux et tout exalté de se trouver sur un coin de terre où s'était déroulée la plus incroyable aventure du monde, François Gaspard, debout sur ses étriers, ne cessait de saluer en termes d'enthousiasme la Kramarmarsa de ses rêves. Instruit par Oviedo Runtu, il désignait l'endroit où attendaient Atahualpa et ses 50 000 guerriers. Cette armée prodigieuse dans ce pays d'Amérique que Christophe Colomb avait découvert seulement une quarantaine d'années avant que Pizarro entreprit sa folle conquête, cette armée formidable ne faisait pas peur à François Gaspard, qui lui aussi semblait un conquistador, et qui n'était pas loin de se prendre pour un héros de l'antique histoire, et qui s'écria « En avant !» On ne dit pas quels furent les sentiments du monarque péruvien lorsqu'il vit la cavalcade belliqueuse des chrétiens avec ses bannières flottantes et ses armures étincelantes aux rayons du soleil couchant, déboucher des sombres profondeurs de la Sierra, et s'avancer dans un appareil hostile sur les beaux domaines qui, à cette époque, n'avaient pas encore été foulés que par le pied de l'homme rouge, mais quand les voyageurs virent partir à fond de train François Gaspard, emporté par sa mule embralée, ce fut dans toute la troupe un immense éclat de rire. Excités par ses rires et par les cris de joie, toutes les autres mules suivirent, qui au grand trot, qui au galop. Le tumulte qui accourait derrière elle ne faisait qu'exciter la monture du malheureux académicien, si bien que le dénouement prévu de cette chevauchée ne se fit guère attendre. La mule culbuta, et l'oncle fut projeté les jambes en l'air à quelques pas de là. On se précipita, on l'entoura, oh, il était déjà debout. Nullement mari, il paraissait au contraire enchanté. « Mesdames et messieurs, s'écria-t-il, c'est ainsi que Pizarro a gagné sa première bataille. » Et il expliqua à Marie-Thérèse et à Raymond, amusés, qu'en effet, lors d'une première rencontre que l'aventurier espagnol avait eue avec les Incas, quelque temps après son débarquement, avant son passage des Andes, il était sur le point, lui et sa petite troupe, d'être anéanti par une troupe plus forte, quand l'un de ses cavaliers fut désarçonné. Or, les Incas, qui ignoraient le cheval et par conséquent l'art de l'équitation, furent tellement stupéfaits de voir se séparer en deux cet animal extraordinaire, le cheval et le cavalier, qu'ils avaient cru jusqu'alors ne faire qu'un, qu'ils abandonnèrent le terrain en poussant des cris d'aliénés. Personne, naturellement, ne crut François Gaspard, qui cependant rapportait l'exacte vérité. Mais toute cette histoire de la conquête du Pérou est si fantastique qu'il faut pardonner aux incrédules qui n'ont pas lu les textes très authentiques sortis des archives de Madrid dont François Gaspard Ozu avait eu soin de prendre copie avant de s'embarquer avec son neveu pour une nouvelle découverte de l'Amérique. On riait encore de l'aventure quand on arriva sous les murs de Kramarmarsa.